Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Louis. Dans ma famille, avec mes parents surtout, on ne parle pas de nos émotions. Et encore moins quand elles sont négatives. J'ai 24 ans et je vais toujours me retenir de pleurer devant un membre de ma famille. Je ne vais pas avouer traverser une période difficile, ni dire explicitement que je suis triste. En grandissant avec une pudeur des ressentis, j'ai appris à ravaler ma peine et à souvent mettre mon émotion sur pause. Aujourd'hui, je me rends bien compte que, par habitude sans doute, la tristesse a presque déserté mon quotidien. En regardant l'actualité par exemple, je fuis tout ce qui a le potentiel de me rendre triste. Mais le problème avec cette stratégie de contournement, c'est que le jour où un événement très douloureux me tombe dessus, je ne sais pas comment gérer la tristesse. Je me demande si je ne serais pas mieux armée pour les gros chagrins si j'acceptais de me laisser aller à la tristesse plus souvent. Est-ce que je ne serais pas plus heureuse en lui laissant un peu plus de place dans mon quotidien ? Je suis Léna Couffin. Bienvenue dans Émotion.
Émotion.
Je me suis sentie soulagée, j'arrivais à trouver les gens qui parlent de ce que moi je vis.
Ça me fait rire.
Là, il y a les lumières, elles se sont allumées à tous les étages.
J'ai tellement adoré que je me suis dit, et j'en veux encore.
Mais j'avais pas vu venir ça du tout, mais quoi ? Mais je suis à fond.
Émotion.
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 Certes, je ne ressens pas souvent de la tristesse. Mais au moins, face à certains événements tristes, je n'ai pas de mal à pleurer. Ce n'est pas le cas de mon ami Roberto, qui est conscient de ce qu'il ressent au quotidien, mais qui est incapable de vraiment vivre l'émotion. Incapable de pleurer. On en discute chez moi un soir à la lumière de bougies.
Là, on est début 2024, je pleurais une fois en 2023. Et en 2022, je pleurais deux fois. Voilà. Je pleurais trois fois en deux ans. Et franchement, il y a des moments où j'aimerais pleurer.
Il me confie une scène de son dernier long voyage en 2022.
Je suis dans la jungle en Amazonie équatorienne. Je passe un mois là-bas au sein d'une communauté indigène, d'une communauté locale. Je suis avec un de mes meilleurs amis dans ce voyage. Et arrive forcément au bout d'un moment, le moment des adieux, au bout d'un mois, je me rappelle bien, c'était tard dans la nuit. Et donc je dis au revoir à Lucia, qui était une amie que je me suis fait là-bas. Je dis au revoir aux enfants de cette famille-là qu'on avait vu tous les jours, qu'on avait beaucoup côtoyé. Je me rappelle très bien d'avoir Lucia en face de moi et de dire à quel point elle a compté voilà, comme amie. Je voulais vraiment qu'elle sache ce qu'elle avait représenté pour moi pendant tout le voyage. Et ben là, j'aimerais pleurer. Le moment en tant que tel est dramatique, enfin, toute proportion gardée. Et ça sort pas, quoi. Ça pleure pas. Il y a un truc qui reste qui ne sort pas de mon corps, alors qu'à l'intérieur, je vais pouvoir l'exprimer, je vais même pouvoir le dire à mon ami que je suis triste et que ça me fait mal au cœur et que. Mais ça sort pas. Et j'avais l'impression que mon état n'était pas à la hauteur de ce que je ressentais à l'intérieur.
Même si on peut ressentir de la peine sans pleurer, Roberto a la sensation de ne pas pouvoir vivre complètement sa tristesse. Pourtant, Roberto n'est pas déconnecté de ses émotions. Moi, je suis en psychothérapie depuis 4 ans. Alors pourquoi on a quand même tant de mal avec la tristesse ? Au fil de notre discussion, je lui confie que je n'ai jamais vu mon père pleurer.
Et je pense que ça a grave façonné mon rapport à la tristesse, tu vois, que dans ma famille, il y a quand même un parent sur deux qui ne montre pas, en tout cas, qu'il ressente une émotion, au point où je me demande s'il la ressent. C'est quand même assez perturbant, cette pudeur sur les émotions. Et où moi, vraiment, ça a un peu façonné ce truc de la tristesse. C'est une émotion que tu vis seule dans ta chambre, tu la vis pas en public, surtout tu ne craques pas devant les gens.
Là, j'avoue que j'espère un peu que mes parents ne tombent jamais sur ce podcast. Quand je les imagine m'entendre me dévoiler, je suis gênée et je ressens de la honte. Il y a quelques années, j'ai lu le livre « How to be sad » écrit par la journaliste britannique Helen Russell. Elle y pointe du doigt le tabou autour de la tristesse qui existe dans les pays occidentaux.
Quand on vit dans une culture très individualiste, comme au Royaume-Uni ou en France, où tout repose sur l'effort individuel, où on nous dit que nous pouvons être heureux, que nous devons être heureux, eh bien, quand on n'est pas heureux, on a d'une certaine manière l'impression d'échouer. On a l'impression de faire quelque chose de mal. Non seulement on n'est pas heureux, mais on se sent en plus coupable ou honteux de ne pas aller bien.
D'après la journaliste, on intègre cette idée dès l'enfance. Ce n'est pas le cas dans tous les pays du monde. Au Japon, par exemple, il est beaucoup plus accepté qu'on puisse être heureux et triste en même temps. C'est moins évident chez nous.
Et ça commence dès le plus jeune âge. Dans les cours de récréation, on dit aux enfants « Allez, arrête de pleurer !» ou « S'ils tombent, on leur dit « C'est pas grave, relève-toi !» Et en fait, les chercheurs et les psychologues suggèrent aujourd'hui qu'il serait beaucoup plus utile de permettre aux enfants de ressentir ces sentiments et de leur dire « Oh, ça doit vraiment faire mal. J'imagine que ça doit te rendre triste, plutôt que de mettre l'émotion sous le tapis. »
Cette éducation a forcément une influence sur notre rapport à l'émotion en tant qu'adulte. C'est ce que me confirme Ginevra Ogucioni, neuropsychologue et psychologue clinicienne à Paris.
Bonjour. Vous allez bien, enchantée.
Ça a été pour venir?
Oui, très bien.
Bon, parfait.
Merci, c'est cosy ici.
Oui, bah merci.
Je m'installe
Oui, bah comme vous préférez, on s'installe sur les fauteuils.
Souvent des adultes qui ne se laissent pas vivre leurs émotions, et notamment la tristesse, sont des enfants qui ont été sabotés dans ces ressentis-là.
Cette honte de se sentir triste, on peut par exemple la ressentir si pendant l'enfance, nos parents nous ont dit « Oh, mais pleure pas, fais un petit sourire à papa !» Du coup, on a intégré le fait qu'il valait mieux ne pas pleurer en public. Non, il faut se ressaisir, et puis on pleurera seul dans sa chambre.
Tout le monde a honte d'être triste, malheureusement. Honte parce que ça me met dans une posture de victime. Tout le monde déteste ce mot-là. Parce que ça me rend faible. Parce que ça veut dire que je ne suis pas suffisamment fort pour affronter les événements de la vie. Et tout ça, c'est totalement faux. Parce que c'est justement parce que je sais élaborer ma tristesse que je deviendrai beaucoup plus fort que quelqu'un qui n'arrive pas, malheureusement, malgré lui ou parce qu'il croit que c'est mieux, à élaborer sa tristesse. Donc c'est des croyances qui sont totalement fausses, mais malheureusement elles sont très 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 profondes et profondément induites dans la société.
Ces croyances n'étonnent pas la journaliste Helen Russell. Selon elle, on confond trop souvent chagrin temporaire et déprime ou dépression, ce qui revient à associer une émotion à quelque chose de pathologique.
On est si peu habitué à se sentir triste qu'on a tendance à confondre dépression et tristesse. Je tiens à préciser que la tristesse est l'émotion temporaire qu'on ressent en cas de perte ou de déception. La dépression, quant à elle, est officiellement diagnostiquée comme une maladie qui dure plus de 2 semaines et pour laquelle il faut remplir certains critères. Confondre les deux n'aide pas. La tristesse passagère est donc une émotion que l'on est censé pouvoir supporter pendant quelques jours, comme une vague qui nous traverse et qui disparaît ainsi plus facilement.
Ce n'est pas parce qu'on évacue et qu'on se plonge un petit peu dans notre tristesse qu'on va chuter dans l'abîme de la dépression.
Ginevra Ogucioni.
Tout au contraire, on sait bien que c'est justement le refoulement de la tristesse qui provoque la montée de pensées obsessionnelles, de pensées envahissantes et d'éléments dépressifs et de dépression. C'est justement parce qu'on ne s'arrête pas sur elle, c'est parce qu'on ne la libère pas, qu'on va produire justement des éléments plus dépressifs.
Et puis, pour la neuropsychologue, de toute façon, refouler sa tristesse n'est pas une solution durable.
Si je décide, moi, consciemment, justement, de refouler ma tristesse. Très bien. Bon, ben, moi, je vais penser ne plus être triste. Mais mon cerveau sait très bien qu'il est triste. Donc, pour lui, ça ne changera rien. Donc, c'est pour ça que c'est complètement contre-productif.
Lors de mes recherches, je tombe sur une étude de l'Université de Berkeley, publiée dans le Journal of Personality and Social Psychology en 2018. Les chercheurs y observent le lien entre l'acceptation des émotions négatives et la santé psychologique des adultes. Résultat, les participants qui laissent s'exprimer librement leurs émotions négatives ont moins de troubles de l'humeur. Et ceux qui les fuient sont plus touchés par le stress.
Donc la tristesse, on sait bien qu'elle est refoulée, elle cause des troubles psychosomatiques. Troubles psychosomatiques, c'est les troubles qui sont exprimés par notre corps alors qu'on a l'impression de ne pas être mal. Par exemple, l'eczéma, par exemple des troubles digestifs, par exemple des migraines, des troubles des articulations, du dos, sont souvent des troubles présents chez des personnes qui refoulent l'émotion de la tristesse.
Pour arrêter de refouler et en finir avec la honte d'être triste, peut-être qu'il faut oser montrer sa tristesse aux autres. Je me rends chez Morgane Hortin, autrice et poétesse, qui est aussi à l'origine du compte Instagram Amour Solitaire.
Bienvenue.
Ah, c'est Paulette, t'as pas peur des chiens,
j'aime ça. Ouais, c'est tout, j'adore. Coucou Paulette.
Récemment, Morgane a publié le livre Le Club des larmes, aux éditions Le Duc. C'est un carnet d'écriture issu de longues recherches et de lectures sur les pleurs.
Est-ce que t'as besoin qu'on soit peut-être proche ou tu préfères qu'on soit là?
Pour m'encourager, Morgane me raconte la soirée de lancement de son livre.
Pour célébrer ce carnet, j'ai envie qu'on réalise une catharsis commune parce que l'enjeu de notre époque, c'est de ne pas arriver à pleurer en groupe, c'est de rendre les larmes très privées, de les rendre très honteuses. Et là, j'ai envie de donner une soirée où les larmes sont sur le devant de la scène, où on n'a pas honte de pleurer. J'ai 50 personnes en face de moi et en fait, je lance juste une question très simple. Je leur demande... quand et pourquoi est-ce qu'ils ont pleuré la dernière fois? Et en fait, petit à petit, l'émotion commence à monter, l'émotion se cristallise. Il y a une première personne qui raconte la raison et la date de ses larmes, qui commence à pleurer. Il y en a trois autres qui pleurent immédiatement parce qu'en fait, elles se sentent concernées par l'expérience qui est partagée par cette personne-là. Et en réalité, on passe une heure à pleurer tous ensemble parce que l'émotion des uns entraîne l'émotion des autres, que plus la parole se libère, plus les autres arrivent à prendre la parole. Et en fait, on crée un vrai cercle de pleureurs magnifique qui a duré une heure. Je ressors de cet événement, je suis vidée. Je pense que j'ai fait le tour, pas que de mes émotions, mais des émotions des autres aussi. Et je crois que ça a quelque chose de guérisseur. En tout cas, moi, ça me fait du bien d'aller visiter les émotions des autres. Ça me permet de soigner quelque chose aussi en moi, je pense.
Ce que Morgane me raconte me fascine autant que ça me fait peur. Si j'avais été à cette soirée, mon premier réflexe aurait sûrement été de tenter de mettre mon émotion sur pause. Et en même temps, en l'écoutant, j'ai presque envie qu'elle en organise une autre pour essayer moi aussi. Et je pense que mon ami Roberto serait partant pour m'accompagner.
Je retiens pas du tout mes larmes, j'aimerais pleurer. J'aimerais que ça coule. Parce que j'imagine que ce serait aller au bout du sentiment que de pleurer.
C'était quoi pour toi aller au bout du sentiment?
Pour moi, aller au bout de la tristesse, ce serait pleurer jusqu'au moment où tu pleures plus. Et en mode, bah, c'est bon, en fait, tout est sorti, j'ai accumulé... J'ai décompensé tout le truc. Et puis quand tu pleures, je pense que t'autorises ton émotion à exister totalement aussi. Et je vois la sensation qu'on a quand on a un peu mal aux yeux, qui est une sensation que j'ai si rarement. C'est vraiment ce truc sous les yeux qui fait que ça chauffe un peu sous les yeux parce qu'on a trop, plissé les yeux, on a trop pleuré et tout. Ouais, ça fait comme, c'est une sensation comme après le sport, limite. Enfin, c'est-à-dire que c'est... Il s'est passé quelque chose, c'est ça en fait. Quand tu pleures, il se passe quelque chose.
Mais il se passe quoi en fait? Pour la neuropsychologue, pleurer un bon coup nous fait réellement relâcher une pression.
La tristesse est une émotion qui demande beaucoup d'énergie. C'est une émotion qui va activer environ 70 zones de notre cerveau. 70 zones cérébrales sont impliquées dans cette émotion, quand on ressent de la tristesse. Pourquoi ? Parce que quand on est triste, on va penser, on va réfléchir, on va chercher des solutions, on va s'arrêter sur le problème, on va le remémorer. Face à toute cette demande d'activité cérébrale, notre corps est en tension, on le ressent pas forcément quand on est triste, mais finalement notre corps est stressé, anxieux. Et donc, il va se mettre en alerte et cette anxiété, en fait, va produire une hormone qui est l'hormone du cortisol, l'hormone du stress, en grosse dose. Pleurer nous permet d'atténuer cette tension, d'évacuer le cortisol et de produire des endorphines. Les endorphines sont un neurotransmetteur qui nous permet d'être apaisé, serein et calme. C'est vrai qu'après une grosse crise de larmes, on se sent beaucoup mieux.
Morgane Hortin a 32 ans aujourd'hui. Depuis toute petite, les larmes font partie intégrante de son quotidien. Pour elle, au-delà du soulagement physique des pleurs, accueillir sa tristesse et oser pleurer apporte d'autres bienfaits.
J'ai souvent dit qu'écrire, ça avait sauvé ma vie parce que j'arrivais pas à parler, mais pleurer aussi, je pense, parce que c'est quand même un moyen d'expression incroyable et que c'est un appel à l'empathie naturelle, quoi. Parfois, on a du mal à dire ce qui va pas, mais le simple fait de pleurer... C'est un moyen naturel pour attirer l'empathie des gens et pour leur montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'on aurait besoin d'aide, quoi.
Elle me raconte une période difficile vécue il y a 2 ans après une rupture amoureuse. À ce moment-là, il lui arrive souvent de se mettre à pleurer en public. Et ce qu'elle découvre, c'est que les larmes sont, c'est elle qui le dit, un lien social magnifique.
Et je me souviens notamment d'un jour où j'étais à Marseille. Et en fait, je commence à faire une crise d'angoisse dans une fripe et donc je sors. Et devant la fripe, il y a une petite table avec 2 chaises. Donc je m'assois là et je pleure. Mais je pleure, j'hyperventile. Enfin, n'importe qui dans cette situation serait mal à l'aise en face de moi, même ma famille, même mes amis. Et là, il y a un inconnu qui passe, qui me regarde et qui s'assoit en face de moi. Il s'assoit, il ouvre son paquet de clopes, il commence à fumer une clope et moi je pleure mais j'arrive pas à respirer. Et il est vraiment pas le moins surpris du monde, pas le moins mal à l'aise. Et en fait au bout d'un moment il me regarde et il me dit « c'est un chagrin d'amour, c'est ça ?» Et il me regarde et il me dit « mais tu sais ça va passer hein ?» Et là on éclate de rire tous les deux. Et en fait ce moment est trop beau et il part et il me laisse juste un mouchoir. Et en fait quand je pense aux larmes à cette époque, je me dis que ça m'a permis de faire venir sur ma route en fait, des gens qui m'ont apporté des soulagements immédiats et que je reverrai sûrement jamais.
C'est fou, je n'aurais pas pensé que la tristesse pouvait créer des liens. Et pourtant, c'est aussi ce qui frustre Roberto lorsqu'il n'arrive pas à pleurer. Il se sent en décalage avec ses proches.
Des fois, j'ai peut-être l'impression de passer à côté de mes émotions. Des moments, je me dis, là, je devrais pleurer. Ma mère va penser, ma mère pleure assez facilement. Elle va penser à quelque chose de triste, par exemple notre grand-mère qu'on a perdue. Moi, ça me rend très triste de penser à ma grand-mère que j'ai perdue. Je vois un profond chagrin en ma mère et je suis en mode, je me sens observateur de la situation. J'aimerais être en pure connivence, connexion. En me disant, mais moi aussi, je suis comme toi, je suis aussi à fleur de peau que toi, je suis en train de pleurer, etc. Alors que non, c'est comme s'il y avait un filtre, une forme de distance entre l'émotion de la tristesse et moi, finalement.
Selon la neuropsychologue Ginevra Ugocioni, manifester sa tristesse a 2 fonctions. D'abord, générer de l'empathie chez l'autre.
Imaginez-vous dans une situation de couple avec votre conjoint ou votre conjointe. Eh bien, vous êtes dans une impasse de communication où l'autre ne vous comprend pas, il n'entend pas, ça vous met, au début, ça vous met en colère. Donc, vous allez essayer d'être dans l'agressivité, dans la colère. Et ça ne marche pas, l'autre ne répond pas. Qu'est-ce qui va vous venir spontanément? Vous allez vous mettre à pleurer. Pourquoi? Parce que, inconsciemment, vous cherchez à ce que l'autre vous rejoigne dans cette tristesse. Donc, il éprouve de l'empathie, donc il s'arrête et qu'il vous écoute finalement, face aux pleurs, s'il ne l'a pas fait face à la colère.
Non seulement la tristesse nous permet de tisser des liens profonds avec nos proches, mais laisser l'émotion nous traverser temporairement a aussi une fonction d'apprentissage. C'est sa 2e mission.
Grâce au fait qu'on se sent triste, on va s'arrêter et réfléchir à ce qui nous rend triste. Donc, on va repasser en mémoire les événements et les facteurs qui nous ont rendus tristes, donc les situations de vie qui ont amené cette tristesse. On va les remémorer et on va essayer de chercher une manière d'agir différemment, de se modifier, d'évoluer, de changer à travers une introspection pour trouver de nouvelles voies possibles pour avancer dans la vie différemment.
Alors ça rend vulnérable, bien sûr, mais en même temps, ça donne une force incroyable.
Morgane Hortan.
Et je pense que la tristesse, c'est la seule émotion qui te permet de te connaître vraiment. C'est la seule émotion, justement aussi parce qu'elle est privée, qui fait que tu dois la dealer toi avec toi-même. Et c'est la seule émotion qui vraiment te fait te rencontrer en profondeur, quoi. Donc ça vaut le coup, même si c'est difficile.
Je comprends que la tristesse permet d'atteindre une partie de soi à laquelle on ne s'intéresserait pas si on n'était pas triste. Ça nous aide à nous sentir mieux, tout comme le fait de ne plus refouler l'émotion et de faire appel à l'empathie de nos proches. Ok, mais une fois qu'on a compris tout ça, comment on fait si on n'a jamais appris à accueillir sa tristesse? Voici quelques perspectives juste après la pause.
Écrire, c'est thérapeutique. Écrire sur ses traumas et sur ce qui nous rend vraiment très malheureux, c'est quelque chose qui nous permet de guérir beaucoup plus vite. Depuis que je sais écrire, en réalité, j'ai 2 journaux intimes. Et bien sûr, je suis persuadée que c'est quelque chose qui m'a énormément aidée à soigner ma tristesse, à soigner ma mélancolie. C'est de l'étiquetage en réalité. C'est de se poser, d'avoir un moment pour soi, pour écrire et dire « bon ben voilà, là je suis triste parce qu'il s'est passé ci, parce qu'il s'est passé ça ». C'est un tel travail en fait de faire ça, ça nous permet de tellement aller mieux, beaucoup plus rapidement.
L'écriture est quelque chose qui fait beaucoup de bien, qui est presque fondamental dans l'élaboration de cette émotion. D'une part parce que écrire me permet de me libérer de mes pensées envahissantes. Et souvent, quand on est triste, on est envahi par ces pensées noires, par ces pensées qui nous prennent malgré nous, hein, qui nous induisent dans des loops de pensées noires. Les écrire nous permet de nous libérer.
Selon la neuropsychologue, ce phénomène s'explique cognitivement.
L'émotion de la tristesse active une partie de notre cerveau qui s'appelle l'amygdale, qui est en question dans tous les ressentis émotionnels, quels qu'ils soient. Grâce à l'écriture, ce qui va se passer, c'est qu'il y a une réduction de l'impact de l'amygdale, donc une réduction de l'impact de l'émotion. Pourquoi grâce à l'écriture? Parce qu'en fait, je vais poser des mots sur cette émotion. Et donc, je vais activer une autre zone cérébrale qui est le cortex préfrontal, donc dans le lobe frontal, devant. Le lobe frontal, c'est tout ce qui me sert à réfléchir, à l'introspection, à développer des stratégies pour pouvoir avancer. Je vais activer cette zone-là et l'activation de cette zone-là, à travers le geste graphique de l'écriture, va réduire l'impact de l'amygdale. Donc je vais moins ressentir l'émotion. Je vais la transformer en quelque chose d'écrit et de frontal.
Ça me rappelle quand je suis très angoissée et que j'écris tout ce qui me fait peur dans un carnet. C'est vrai que l'effet apaisant est immédiat. Pour la tristesse, c'est pareil, selon la neuropsychologue. C'est comme si en écrivant, on allumait un interrupteur dans le cerveau qui, instantanément, éteignait celui du ressenti de la tristesse. On se sent alors libéré mentalement. Écrire est donc l'une des façons d'accepter son chagrin, tout comme l'introspection.
Tout est un travail d'équilibre. Dans le fait de m'arrêter, accepter ma tristesse, la ressentir, me permettre de la ressentir, l'accepter et faire un travail d'introspection sur qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir changer et modifier mon comportement pour ne pas être triste face à ces situations. Qu'est-ce qui est modifiable? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est l'autre? Qu'est-ce que je peux changer? Donc justement, toute cette activité cérébrale dont on parlait au début, toute cette introspection est nécessaire pour ne pas se laisser envahir par la tristesse et plonger dans la dépression.
L'un des experts à qui j'ai parlé m'a dit « Ce n'est pas pour rien que les moines bouddhistes vont s'asseoir au sommet d'une montagne. Ce n'est pas juste pour la vue, mais aussi pour prendre du recul. » La tristesse, pour moi, c'est une émotion totale qui nous met face à notre impuissance. C'est pour ça qu'Hélène Russell me conseille de chercher à prendre du recul. Se sentir tout petit face au monde peut être très réconfortant. Et dans nos vies trépidantes, beaucoup d'entre nous n'en ont pas l'occasion. De nombreuses recherches sont intéressées au pouvoir de la nature et à l'effet ressenti lorsqu'on passe du temps au bord de la mer, à la montagne, ou même près d'un très grand arbre. Ce sont des choses qui nous font nous sentir petits et qui nous aident vraiment lorsqu'on se sent dépassé par nos émotions.
Personnellement, il y a une chose qui m'aide à me connecter à ce qui me rend triste. Je suis dans le train, place-fenêtre, la tête contre la vitre. Je sais, vous me voyez venir. J'ai dans mes écouteurs les albums de la chanteuse Adele. Et c'est pas une blague, ça m'aide vraiment. D'ailleurs, c'est même prouvé scientifiquement. Une étude de 2014 montre que la musique triste permet de réguler nos émotions négatives. En amplifiant notre émotion, la musique nous aide à nous purger de la tristesse et à la traverser plus rapidement.
En tant que grande lectrice depuis l'enfance, je trouve également très utile de prendre du recul à travers les livres. On peut développer notre empathie, on peut se mettre à la place du personnage d'un livre et échapper à notre quotidien pendant un moment, non pas en ignorant nos problèmes, mais en ouvrant notre cœur et notre esprit en pensant à ce que ressentent les autres.
Si on préfère regarder un film ou une série, ça fonctionne aussi bien sûr. Du moment qu'on ne se noie pas dans le binge-watching pour fuir ses émotions. Personnellement, c'est ce que j'ai tendance à faire, mais je me soigne. Mais justement, si prendre du recul de cette manière n'apaise pas complètement notre sentiment d'impuissance, on peut aussi être dans l'action, notamment envers les autres.
Lorsqu'on se sent triste, la solution qui marche à tous les coups est de faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. On prend du recul parce qu'on pense à ce que ressent cette personne qui se trouve peut-être dans une situation pire que la nôtre ou qui traverse une période plus difficile que la nôtre à ce moment-là.
Ça me soulage de comprendre que la tristesse n'est pas forcément une émotion définitive. Même si certaines choses me rendent triste, ça ne veut pas dire que je vais être abattue. Il suffit de reconnaître l'émotion, de la comprendre, et puis, après l'introspection, de mettre en place des changements quand c'est possible. Mon ami Roberto n'arrive peut-être pas à pleurer, mais l'étape de l'action, il semble la maîtriser.
C'est très personnel, on peut pas toujours tout le temps agir sur son chagrin, notamment quand on perd quelqu'un. Mais si j'ai le contrôle dessus, alors il faut que je fasse quelque chose là-dessus, en fait. S'il y a des choses qui vont pas, si là t'es un petit peu malheureux, ça m'arrive hein, d'être malheureux, bah vas-y, on agit. Je me parle moi-même, mais on va faire un truc pour arrêter d'être malheureux, on va avancer. Et vu que je suis dans l'action et dans la solution, ça va. Il y a un soir, ça va me... franchement, il y a un soir où je vais me dire, mais tu peux rien faire contre ça, c'est... je vais me sentir impuissant. Et là, je vais vraiment être triste. Et très vite, je vais essayer de trouver une solution. Et dès que j'ai trouvé une solution, que j'ai trouvé une perspective, je suis plus triste.
Et là, je me demande, qu'est-ce que moi, je peux faire pour alléger mon rapport à la tristesse ? Alors c'est parti, je me lance. Papa, maman, si jamais vous écoutez quand même cet épisode, j'ai quelque chose à vous dire. Parfois, je suis triste. Parfois, je pleure avec des sanglots, mais ça ne fait pas de moi quelqu'un de faible, ni quelqu'un de malheureuse. Être triste, accueillir ce sentiment, ça s'apprend. Cela peut paraître inquiétant, mais je suis maintenant persuadée que mieux j'accepterai la tristesse, mieux je saurai comment la gérer, moins elle me fera peur. Et même si je suis toujours très gênée à l'idée que vous puissiez m'entendre dire tout ça, je suis aujourd'hui fière de faire ce chemin et d'essayer de contrer ce qui se cache derrière la sensation désagréable de se sentir triste dans notre société. J'espère que vous aussi, ça vous aura ouvert les yeux. Je suis Léna Couffin et vous venez d'écouter Émotion. J'ai tourné, écrit et monté cet épisode. La réalisation sonore est signée Thomas Rosès. Léna Coutreau est la productrice d'Émotion, accompagnée d'Elsa Berthaud. Si vous avez des questions ou des histoires sur les émotions que vous ressentez, n'hésitez pas à nous écrire à hello@zouimedia.com. À très vite!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.
Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Brought to you by Lexus. Some things do more than their stated functions, because exceptional things inspire you to do exceptional things. To this select list, we add the all-new Lexus GX. With its exceptional capability, you'll see possibilities you never knew existed, sending you far outside your comfort zone. But as much as the GX challenges you, it also spoils you. Its intuitive technology and luxurious features mean that wherever you go, you'll never go without. Live up to it. The all-new Lexus GX.